Place Info. 20h, 21h, France Info, les informés.
Nicolas Creusel.
Bonsoir à vous toutes et à vous tous et bienvenue pour débattre pendant une heure de l'actualité du jour, actualité dominée évidemment, vous venez de l'entendre, par la rencontre en ce moment même au fort de Brégançon entre le chef de l'État Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, le président russe exclu du G8, devenu par conséquence G7 et malgré tout incontournable. Est-ce un sommet de rattrapage, un lot de consolation ou une vaste hypocrisie que de l'exclure ? Le vendredi pour l'invité, le lundi qui précède, on va en débattre avec nos informés dans un instant. Cette rencontre, c'est aussi la première d'une semaine où Emmanuel Macron sera au centre du monde, à défaut d'être le roi du monde. Mercredi, rencontre avec le chef du gouvernement britannique Boris Johnson. Vendredi, G7 à Biarritz avec notamment Donald Trump. Au menu des informés ce soir également, la rentrée du gouvernement après un été plutôt calme. Pas d'affaire Benalla cette année, mais... est-ce le calme qui annonce la tempête, les retraites, les lycées, la PMA, le monde agricole? Les raisons de la colère ne manquent pas. Et puis roulez moins vite en ville, 30 au lieu de 50, avant Paris peut-être un jour et après Grenoble. C'est Lille qui met en place ce dispositif. Bonne ou mauvaise idée, on demandera leur avis à nos informés qui sont ce soir Jérémy Pelletier, directeur des études à la Fondation Jean Jaurès. Bonsoir.
Bonsoir.
Romain Mouton, communicant, fondateur de l'agence RM Conseil.
Bonsoir.
Et Frédéric Durand, directeur exécutif de la Marseillaise.
Bonsoir. Bonsoir.
Merci d'être là tous les trois. Et donc, on va débuter cette émission avec la Russie exclue du G8, redevenue du coup depuis 4-5 ans maintenant G7, sur fond de crise en Crimée. Et malgré tout, Vladimir Poutine qui réussit quelque part un petit tour de force d'apparaître incontournable. Invité ce soir du président Macron au fort de Brégançon, la résidence de vacances des chefs d'État français. Emmanuel Macron veut, paraît-il, continuer de réchauffer les relations entre la France et la Russie.
Très heureux d'abord d'accueillir le président Poutine et je veux... le remercier pour sa présence aujourd'hui à Brégançon, qui vient après plusieurs échanges, nos échanges à Versailles dès le printemps 2017, puis à Saint-Pétersbourg au printemps 2018, et tous les échanges que nous avons pu avoir, le dernier en date étant à Osaka. Et je suis très heureux de pouvoir l'accueillir dans ce lieu ô combien symbolique, et sur les rives de cette Méditerranée qui ont toujours beaucoup compté pour la relation entre nos deux pays, et pour l'imaginaire russe. Beaucoup de grands artistes, écrivains, peintres ou musiciens d'ailleurs russes ont séjourné sur ces rives. Et de Nabokov à Tourguenieff, en passant par Stravinsky et plusieurs autres, elles ont su inspirer.
Voilà, le président Macron pour accueillir tout à l'heure Vladimir Poutine. Beau numéro d'accueil diplomatique, on va dire, Jérémy Pelletier.
En tout cas, c'est un bon lever de rideau pour ce G7. Je crois que c'est aussi l'intérêt d'avoir reçu Vladimir Poutine. On l'a dit tout à l'heure lors des informations, il a été exclu désormais du G8. Je pense que même médiatiquement, c'est un excellent lever de rideau pour ce G7 qui va évidemment se tenir à Biarritz. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'Emmanuel Macron, en fait, dès le début de son mandat, dès son élection, a très vite investi la scène internationale. Et il l'a rappelé, Vladimir Poutine a été le premier chef d'État européen, le premier chef d'État, pardon, en tout cas d'ampleur, à être reçu à Paris, à Versailles. Et l'opinion publique, d'ailleurs, c'est ça, et pense évidemment qu'Emmanuel Macron... alors, ils peuvent lui reprocher beaucoup de choses et depuis évidemment son élection, l'opinion publique peut reprocher beaucoup de choses à Emmanuel Macron, mais il y a quelque chose qui est assez stable quand on interroge les Français, c'est la façon dont, a priori, Emmanuel Macron a redoré la place de la France sur l'échelle internationale, la façon dont Emmanuel Macron incarne la stature de chef d'État à l'international. Et je pense que ce type de rencontre avec Vladimir Poutine et avec tout ce que cela dit participe de ça, en tout cas.
Poutine indésirable mais indispensable, Frédéric Durand. La Marseillaise.
Oui, bah oui, je crois que Poutine, en fait, d'abord, je suis pas sûr qu'il attende grand chose, en vérité, de cette rencontre. Vous savez, le reproche que fait Poutine à l'Europe et à Macron et à la France, c'est d'être totalement aligné sur les États-Unis. Vous savez que les sanctions qui ont été prises, depuis 2014 contre la Russie ont coûté certes un peu cher à la Russie, mais ont coûté énormément cher à l'Europe et très peu aux États-Unis. C'est aussi une des raisons pour lesquels, je pense, le président Macron a tout intérêt de poursuivre la discussion. Parce qu'au-delà, je dirais, des positions un peu de principe ou des positions morales, il y a la question des retombées économiques pour la France et pour l'Europe. Et le calcul des sanctions n'était pas forcément un mauvais calcul pour les États-Unis, parce que leur commerce est beaucoup moins, je dirais, lié, mais par contre, c'était un très très mauvais calcul pour l'Europe. Et Poutine considère que si Macron a accepté de se tenir sous le joug de Trump et de ses prédécesseurs, puisqu'à l'époque, ça n'était pas lui, qu'en tout cas, la France a décidé de se tenir sous le joug américain, ça prouve qu'ils n'ont pas défendu les intérêts de l'Europe et ça prouve qu'ils n'ont qu'une marge de décision assez
faible.
Oui, trop faible. Moi, je pense que c'est ça.
Romain Mouton, votre regard sur cette séquence qui arrive là, à 4-5 jours d'un G7. Je me disais dans le sommet, est-ce que c'est pas un peu hypocrite de l'exclure au nom des droits de l'homme, au nom de l'intervention en Crimée, blablabla, et puis finalement de le recevoir 4 jours avant?
Non, c'est pas du tout hypocrite, au contraire, c'est du bon sens, c'est à la fois très propre en termes de séquence politique, en termes de positionnement pour Emmanuel Macron, il commence son année par une séquence internationale forte. Ça aurait été hypocrite de mener ce G7 et de vivre ce G7 sans prendre en considération les souhaits, les aspirations et la relation entre la France et la Russie. Donc non, ce n'est pas hypocrite et c'est très bien joué, on en reparlera j'imagine après, en termes de communication pour Emmanuel Macron, et même tout simplement en termes de politique.
Parce que ça le replace en quelques secondes au centre du jeu, c'est ça que
vous voulez dire, quand c'est bien joué Il se positionne au centre du jeu, déjà le G7 ayant lieu en France, il est au centre du jeu, mais en plus de ça, en consultant une puissance mondiale aussi incontournable qu'est la Russie, alors que d'autres membres du G7 présents sont affaiblis et que la relation est compliquée avec les États-Unis, il se pose presque en unique interlocuteur des Russes au G7.
On va continuer de parler évidemment de cette venue de Vladimir Poutine en France au fort de Brégançon ce soir, à quelques jours maintenant de l'ouverture du G7 à Biarritz. C'est juste après le rappel de l'info. Il est 20h10, Thomas Bénèche.
6 mois de prison avec sursis pour une femme de 28 ans. Son compagnon écope plus de 750 euros d'amende. Peine prononcée aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Créteil. La prévenue avait appelé jeudi dernier à l'aéroport de Paris, estimant que son petit ami risquait de commettre une attaque. On a retrouvé sur lui à Orly une lame, mais l'homme se rendait en fait à Barcelone pour un concert. En Loire-Atlantique, une fillette de 18 mois meurt en chutant d'un tracteur. La scène se déroule hier soir près d'Ancenis. Elle se trouve sur le tracteur de son père, dont elle tombe après un choc sur le terrain sur lequel roule le véhicule. Prudence en arrière. On craint de très fortes intempéries dans le département. Il est placé en vigilance orange à la pluie et aux inondations. L'alerte doit être déclenchée à partir de minuit et courir jusqu'à demain, 16h. Emmanuel Macron le demande. La liberté d'expression et de se présenter librement à des élections doit être respectée en Russie. Cela alors que des manifestations dans le pays ont été récemment réprimées. Vladimir Poutine dit lui ne pas vouloir d'une situation équivalente à celle des Gilets jaunes en France. Le maître du Kremlin rencontre le président français au fort de Brégançon ce soir dans le Var. Le policier accusé d'avoir asphyxié un noir américain en 2014 est renvoyé. Décision prise par le chef de la police new-yorkaise. Il dit suivre ainsi la recommandation faite par une juge administrative. C'était lors d'une audience disciplinaire qui s'était achevée en juin dernier.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Nicolas Creusel.
Avec ce soir, Jérémy Pelletier de la Fondation Jean Jaurès, Romain Mouton de l'agence RM Conseil et Frédéric Durand de la Marseillaise. On parle de Poutine reçu par Emmanuel Macron ce soir au fort de Brégançon. Vous disiez à l'instant, Romain Mouton, avant le rappel de l'info, que finalement Vladimir Poutine voyait en Emmanuel Macron peut-être le seul interlocuteur crédible en Europe. C'est vrai que Emmanuel Macron peut profiter aussi de la faiblesse d'Angela Merkel qui est sur la sortie, de la confusion politique en Italie, de Boris Johnson évidemment, enfin de la Grande-Bretagne en plein Brexit, Frédéric Durand.
Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, effectivement, je crois que avec une Angela Merkel à la pré-retraite, avec Salvini qui s'agit dans tous les sens, et avec Boris Johnson empêtré pour l'instant en tout cas dans le Brexit, il a là, je dirais, une fenêtre de tir remarquable.
Un alignement des planètes.
Tout à fait, il y a un alignement des planètes. Vous savez, il faut relire, je crois, le discours qu'avait fait à la Sorbonne au début de son mandat Macron pour se souvenir que le rêve fou de Macron, c'est d'être au-delà de président de la France, d'être peut-être de l'Europe. En tout cas, là, il trouve une conjoncture qui est parfaitement favorable à ses ambitions, et je crois qu'il l'utilise à fond. Alors, après, hypocrite ou pas hypocrite, c'est presque, effectivement, l'espèce une... Qu'est-ce qu'on reproche aujourd'hui à la Russie, ses relations avec l'Ukraine? Sur la Crimée, il y a eu un référendum qui a été largement favorable au rattachement à la Russie. Il y a toutes ces choses-là.
Et puis on lui reproche aussi, par exemple, la répression des manifestations.
Oui,
des
mais
opposants.
Ça, il aura beau jeu de renvoyer à Macron dans la figure que les Gilets jaunes, c'était aussi, ça s'est pas super bien passé non
écoutez,
plus.
Écoutez, justement, Vladimir Poutine, qui, au moment où Emmanuel Macron avait alerté sur les manifestations et le droit d'avoir une opposition en Russie, le président russe a répondu.
Je suis invité par le président français, je suis un peu mal à l'aise en le disant, mais vous savez tous que pendant les manifs des Gilets jaunes, il y avait plusieurs dizaines de personnes qui avaient été blessées, il y avait des policiers qui avaient été blessés, et on ne veut pas du tout que des événements pareils se passent dans la capitale russe, mais on va toujours respecter la loi.
Pour ce qui est
de voilà. Une leçon de maintien de l'ordre par Vladimir Poutine tout à l'heure à Brégançon, Jérémy Petit.
Bon, c'était préparé.
C'était bonne guerre.
Évidemment, c'est de bonne guerre. Il avait préparé, je dirais, cette punchline. Mais ce qui est intéressant dans la séquence, et d'ailleurs, c'était aussi le cas à Versailles quand les deux se sont rencontrés, c'est que les deux, quand même, osent se dire les choses. Et d'ailleurs, c'est ce qu'Emmanuel Macron aussi veut montrer quand il fait cette séquence-là, c'est qu'il ose dire les choses au grand chef d'État. Ça a été le cas avec Donald Trump et c'est également le cas ici avec Vladimir Poutine. Vous vous souvenez, quand il le reçoit à Versailles, on était évidemment quelques semaines après l'élection présidentielle, il avait dit à Vladimir Poutine, en tout cas il l'avait alerté sur les tentatives d'ingérence, en tout cas de la Russie sur la campagne présidentielle et sur l'élection présidentielle, et le petit jeu, en tout cas orchestré par les médias, les relais en tout cas médiatiques russes en France, Sputnik et RT France. Oui. Et tout à l'heure, vous demandiez, vous posiez la question, est-ce que c'est quelque chose d'hypocrite ou pas de le recevoir? Mais finalement, Emmanuel Macron, là, il le redit une nouvelle fois, il le redit, mais attention, j'accorde beaucoup d'importance à la liberté d'expression, à la liberté d'expression politique, à la liberté d'expression des opposants politiques. Et je crois qu'au-delà de l'aspect aussi pragmatique que Emmanuel Macron veut donner à voir quand il reçoit justement Vladimir Poutine en disant il n'y a pas un monde binaire, il n'y a pas les gentils et les méchants de l'autre, je pense que l'autre objectif évidemment d'Emmanuel Macron à travers ces rencontres-là, c'est de pouvoir dire, moi j'ose dire les choses et ce qui fait que la France pèse à l'échelle internationale.
Frédéric Durand.
Je crois que du côté russe, il y a quand même une nostalgie de l'immensité d'une nation et enfin, d'une fédération à l'époque, mais je crois que il faut imaginer que la Russie c'est en superficie quatre fois l'Europe. Et que je crois que la question pour la Russie, c'est aussi de se faire respecter, d'être un partenaire à part entière. Alors évidemment, elle n'est plus ce qu'elle était, mais je crois que chez les Russes, ce côté de vouloir à nouveau être un interlocuteur crédible et puis respecté, c'est très important aussi. Et on le voit dans l'attitude notamment de Poutine. Et effectivement, si Poutine arrive et mentionne en premier lieu les Gilets jaunes, c'est qu'il sait bien ce qui va lui être reproché aujourd'hui avec ce qui se passe pour les élections à Moscou.
En même temps, on ne lui fait pas Vladimir Poutine. On se rappelle tous de Nicolas Sarkozy qui avait tenté de l'intimider à un moment et qui avait été très secoué dans une rencontre il y a quelques années. Romain Mouton.
Ce qui est important pour Emmanuel Macron, c'est que une fois que cette séquence qui est effectivement propre et qui est un terme politique est favorable, c'est qu'il y ait des suites et des actions de la part de Vladimir Poutine et en tout cas que ça serve à quelque chose. Mm-hmm. Parce que là, on a monté une belle séquence, mais celui qui est, ils sont tous les deux gagnants, parce que Emmanuel Macron ouvre une séquence internationale et se positionne au centre du jeu, mais Vladimir Poutine, au niveau international, il a la crédibilité d'un chef d'État respectable, reçu par le leader de l'Europe, et il est ultra bien traité par Emmanuel Macron. Enfin, il a été reçu à Versailles. Après, maintenant, il est reçu au fort de Brégançon.
Le fait qu'il n'ait pas l'honneur de l'Élysée, qu'à chaque fois, ce soit Versailles, soit Brégançon, si vous n'y voyez pas de symbole particulier.
Il y a des symboles, mais les honneurs de l'Élysée, est-ce que c'est plus honorable d'être reçu deux fois à l'Élysée ou d'être le seul chef d'État reçu à la fois à Versailles? C'est quand même, en termes de symbole, hyper important pour la France.
C'est le monarque russe reçu
lors d'une exposition sur Pierre le Grand qui était sur l'ouverture de la Grande Russie, et reçu au fort de Brégançon, où il n'y a que très peu de chefs d'État qui ont été reçus. L'année dernière, Theresa May, Nicolas Sarkozy a reçu Condoleezza Rice, mais ça a été très rare dans l'histoire de Brégançon. Enfin, même si ça existe depuis 68, il a fallu attendre 85 pour qu'il y ait des chefs d'État qui soient reçus. Et Emmanuel Macron veut faire du patrimoine national des hauts lieux de la République. Et donc choisir Brégançon et l'offrir à Vladimir Poutine, qui est le seul chef d'État reçu cette année à Brégançon, c'est un signe à la fois d'amitié, de respect, de considération extrêmement fort. Et sans nul doute, Vladimir Poutine, et d'ailleurs les médias russes et les analystes russes en font chou gras, c'est pour eux hyper important de survaloriser ce traitement spécial du président de la République française.
Je vois que vous vouliez rajouter quelque chose.
Oui, non, moi, Frédéric. Je crois que, bon, il y a trois problèmes, au-delà des questions économiques qu'on a évoquées, il y a trois problèmes diplomatiques sur lesquels la Russie, je dirais, pourrait, ou en tout cas, où Macron pourrait essayer d'influencer. Mmh. C'est évidemment la question de l'Iran, c'est la question de la Syrie, on connaît les positions, et c'est la question de l'Ukraine. Donc, on verra aussi, en fonction, je ne crois pas que la Russie soit prête à bouger d'un millimètre sur ces trois questions. Mais on verra aussi la réussite ou non de Macron, à l'aune de ce qui pourrait se passer après.
Mais est-ce qu'on peut pas, on a du mal à imaginer que Vladimir Poutine s'assouplisse simplement pour faire plaisir à Emmanuel Macron.
Ce que cherche peut-être Macron, c'est qu'au-delà des symboles qu'on vient d'évoquer, c'est d'avoir une vraie dimension internationale. Et s'il arrivait à influer sur ces sujets, et là, pour le coup, Poutine est un homme clé sur la scène internationale, alors il bénéficierait d'une aura supplémentaire au niveau international. Ça, c'est certain.
Après le prochain rappel de l'info, on essaiera de voir d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui les met d'accord, hein, tous les sujets que vous avez listés, on pourra les détailler un petit peu, Frédéric, mais voir un petit peu quand même si une inflexion est possible, ou est-ce que là on est dans le théâtre de la diplomatie, selon vous, Jérémy Pelletier, chacun campera sur ses positions, et finalement les messages de Vladimir Poutine aujourd'hui, ils iront jusque dans les têtes et les oreilles des participants au G7 dans 4 jours.
C'est possible, c'est difficile à dire. Vous avez évoqué le terme du théâtre de la diplomatie. En effet, on peut imaginer que tout cela participe du théâtre de la diplomatie. Mm-hmm. Quand même, ce qui est intéressant quand même à noter, c'est le grand changement quand même de relations entre la France et la Russie. On oublie, mais à partir de 2014, les relations entre le chef d'État français François Hollande et Vladimir Poutine sont quasi inexistantes. Ils ne se parlent quasiment plus. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que même Emmanuel Macron, ministre de l'économie en 2016, sans doute pour des intérêts notamment liés au milieu financier et aux investissements et aux investisseurs français et russes, avait même lui demandé la levée des sanctions en 2016, justement suite à l'annexion de la Crimée. On n'oublie pas aussi que Vladimir Poutine avait soutenu de façon assez claire François Fillon lors de la présidentielle.
Justement, ça,
il avait accueilli Marine Le Pen. Et donc, imaginez finalement ces relations désormais chaleureuses après toute cette séquence-là. C'est quand même un gap assez important.
On poursuit notre débat sur ce sommet bilatéral Macron-Poutine à Brégançon. Juste après, le rappel de l'info, 20h20, Thomas Benesch.
Le corps du Français Simon Gauthier transféré depuis cet après-midi à l'hôpital de Sapri dans le sud de l'Italie. Il a été extrait du ravin où il a été retrouvé hier soir. Simon Gauthier, 27 ans, a été porté disparu depuis le 9 août dernier lors d'une randonnée où il s'est gravement blessé. Il y a un problème de santé publique qui n'a pas été pris en considération. Juge sur France Info, Emmanuelle Amar, elle est directrice générale du registre des malformations en Rhône-Alpes. Elle réagissait à cette plainte contre X déposée par une famille originaire de l'Ain dont l'enfant présente une malformation d'une main. Ses parents estiment que des experts mobilisés sur ce dossier des bébés nés sans bras en France ont récemment écarté ce département de l'Ain. Ce que fait Matteo Salvini par rapport à l'Open Arms, c'est une honte pour l'humanité, s'emporte la ministre espagnole de la Défense. Elle accuse le ministre italien de l'Intérieur de refuser de laisser débarquer les 107 migrants à bord de l'Open Arms, affrété par l'ONG ibérique du même nom. Elle estime que Salvini veut tirer profit politiquement de ce dossier, lui qui veut renverser le gouvernement italien et convoquer de nouvelles élections. Omar El-Béchir reconnaît avoir perçu 90 millions de dollars en espèces, révélation d'un enquêteur au premier jour du procès de l'ancien dictateur soudanais, homme au pouvoir pendant 30 ans et destitué par l'armée, c'était le 11 avril dernier. Enfin, le cognac se porte très bien, ses ventes à l'étranger ont progressé en un an de 2,5%, une dynamique portée par les États-Unis.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Nicolas Creusel.
Avec ce soir Frédéric Durand de la Marseillaise, Romain Mouton de l'agence RM Conseil et Jérémy Pelletier de la Fondation Jean Jaurès. Jérémy, juste avant qu'on s'interrompe pour le rappel de l'info, on évoquait la relation peut-être un peu du président Poutine à certains politiques en France. Effectivement, si on remonte un peu le temps à la campagne présidentielle il y a 2 ans, Vladimir Poutine s'était clairement montré pro-Fillon avant ensuite de se rapprocher quand même de Marine Le Pen. Quelles sont, à votre avis, messieurs, véritablement les relations, ou en tout cas les sentiments, l'estime qu'il a, le président russe, pour le président français, Romain Mouton?
Mais dans ce type de relation, il n'y a pas d'affect, il n'y a pas de relation humaine de la part de Vladimir Poutine. Mmh. contrairement à Emmanuel Macron, qui a une grande passion, qui est de jouer avec la psychologie de ses interlocuteurs et qui veut les emmener grâce à des symboles, des codes, des traitements différents. On l'a vu notamment avec Donald Trump. Il veut les faire avancer sur certains sujets. La réalité, c'est que les points de convergence, tant humains que politiques, sont très minces, voire quasi inexistants avec Vladimir Poutine. Mais là, c'est plus des questions d'ordre économique et géopolitique mondiaux qui sont traités. Et après tout, s'entendre bien ou pas avec son interlocuteur a peu d'importance. D'ailleurs, Donald Trump avait également eu plus d'affection pour Marine Le Pen et pourtant,
aujourd'hui, il tape dans le dos bilatérales.
Donc, très fortement. Je pense Emmanuel que la relation humaine a peu d'importance dans ce type de relation.
Non, mais peut-être que
au-delà de la relation humaine, peut-être que oui, la relation humaine a pas trop d'importance, même si on a vu des chefs d'État s'entendre mieux et régler des choses parce qu'ils s'entendaient. Mais ça, c'est la vie, j'allais dire. Mais au-delà de ça, je pense que effectivement, lorsque Poutine dit que les démocraties libérales sont un modèle en faillite, il le pense vraiment. Mmh. Il pense. Or là, il est aux antipodes de ce que peut défendre Macron. Et Poutine défend dans beaucoup de pays d'Europe et finance même, on le sait aujourd'hui, des partis mais d'extrême droite comme d'extrême gauche. En fait, il se cherche d'une part, il se cherche des alliés potentiels ailleurs, mais tout simplement parce qu'il a été extrêmement mis au banc
de
la communauté des nations. Et donc, je pense que il a décidé à partir de là de jouer un jeu de déstabilisation pour ne pas se retrouver. Les sanctions, elles ont été elles ont été très très dures pour la Russie malgré tout. Et donc ben voilà, je pense qu'il cherche lui aussi.
Est-ce qu'il y a une méfiance à votre avis d'Emmanuel Macron qui sait quand même qu'il y a eu Sputnik, Russia Today, l'ingérence dans la campagne électorale en France. Enfin, il y a eu des choses qui ont été clairement affichées par l'État français, ensuite par la présidence Macron, pour dire qu'il y avait eu des choses qui ne se faisaient pas entre pays civilisés, on va dire.
Oui, mais la moindre des choses, c'est d'être méfiant à ce niveau-là. Je pense que oui, Macron l'est sans doute et qu'il a pas tort de l'être.
Jérémy Pelletier.
Oui, il y a une méfiance et une lucidité là-dessus. Mais je pense que ce qu'il y a surtout, et peut-être qu'on n'en a pas assez parlé, je pense qu'il y a chez Emmanuel Macron une inquiétude aussi sur la façon dont avance le monde et sur la montée de ce qu'on appelle les démocraties illibérales. Et c'est pour ça aussi qu'il reçoit Vladimir Poutine, car il sait qu'aujourd'hui, voilà, vous avez un certain nombre de chefs d'État, de pays importants, évidemment on pourrait parler de l'Italie, là on parle évidemment de la Russie, qui sont sur des modèles démocratiques, qui commence vraiment à s'éloigner de ce que nous sommes. Et je pense que là, il y a une lucidité, une inquiétude, en tout cas,
du côté de Macron. Donc continuer à parler avec ces gens-là et rappeler nos principes, ces gens-là, entre guillemets, ces régimes politiques-là, que mon expression ne soit pas détournée.
Parce qu'il sent, il le sait, qu'il y a une situation très instable et que tout ça est très explosif, évidemment, à l'échelle du monde, et que le dialogue, ça reste un début de relation.
À l'échelle du monde, ils sont d'accord sur rien.
Rappelons que sans doute Poutine en joue, mais que Macron en joue aussi. Vous savez, Macron en interne, en tout cas, son adversaire idéal entre guillemets, c'est Marine Le Pen, c'est l'extrême droite.
S'il s'affiche copain avec Poutine, il affaiblit Marine Le Pen.
Pas forcément. Mais en tout cas, je veux dire qu'il n'y a pas que Poutine qui joue des ambiguïtés. Mm-hmm. Macron en joue aussi, et Macron met aussi en scène la démocratie libérale contre le populisme nationaliste d'extrême droite. Donc là, c'est des jeux à plusieurs bandes, et je pense que Macron n'est pas le dernier à jouer.
Romain Mouton, ils sont d'accord sur rien sur le fond. Hein. L'Iran, oui, mais l'Ukraine, la Chine...
C'est là toute la subtilité de la diplomatie. C'est que souvent, un succès diplomatique n'est pas visible par le grand public. Et une relation diplomatique efficace et des diplomates efficaces, c'est pas forcément ceux qui vont faire la une des journaux parce qu'ils auront réussi un succès. Il y a la façade, il y a les rendez-vous officiels, ce qu'on va voir nous dans les médias, les relations entre Donald Trump et Emmanuel Macron et ainsi qu'avec Vladimir Poutine. Mais on peut pas dire que c'est en façade qu'on voit de grands succès depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. On peut pas dire que Donald Trump a radicalement changé, on ne peut pas dire que Vladimir Poutine a radicalement changé, et on a parfois l'impression que ces rencontres servent à rien. Sauf que dans les coulisses, il y a des avancées plus ou moins fortes, plus ou moins utiles, et donc il y a le lien diplomatique et le lien politique est nécessaire tant officiellement qu'officieusement, et donc Emmanuel Macron est dans son rôle de président de la République de maintenir ce lien avec toutes ces grandes puissances quelle qu'elle soit.
Je ne sais plus lequel de vous trois disait que ça lui sert en plus sur le plan intérieur. C'est-à-dire que ça renforce sa stature de chef de la nation, Jérémy Pétain.
Mais d'ailleurs, voilà, c'est quelque chose qui n'a jamais baissé ça dans l'opinion depuis toutes les enquêtes d'opinion.
Les Français sont très attachés à ça depuis le général de Gaulle, au futur.
Absolument. Mais par ailleurs, Emmanuel Macron a très investi sur ce créneau-là et sur cet axe-là dès son élection. C'est vraiment l'un des éléments peut-être central de son début de mandat, c'est refaire, en tout cas tout de suite se faire une stature internationale et je dirais redonner les lettres de noblesse de la France à l'échelle internationale. Et
c'est vrai que cette semaine, elle est parfaite pour ça. Vous êtes d'accord?
En plus, je pense que c'est son devoir, Emmanuel Macron, de faire ça. Il y en a qui contestent le fait qu'il reçoive quelqu'un qui fait dans son pays des choses.
Mais là, je veux dire, ça s'enchaîne bien, je veux dire, avec Boris Johnson,
Donald Trump. Bien sûr, mais je pense que ça s'enchaîne pas au hasard. Effectivement, l'invitation a été faite d'une façon, de façon à ce que, comme il allait présider le G7, et bien voilà, celui qui en a été exclu est reçu. Donc évidemment, on répare d'une certaine manière.
Mais les soucis ne sont peut-être pas bien loin pour autant pour le président Macron. La rentrée du gouvernement, c'était aussi aujourd'hui. Et les sujets qui sont sur la table ne sont pas tous très populaires dans l'opinion. On en parle juste après les infos et la météo.
Oude, gère tout dans la maison. Oude, gère tout ce que je veux. Je veux
c'est décidé. À la rentrée, je fais confiance à Aude. Ranger, laver, repasser, faire les courses et le dîner, leurs professionnels s'occupent de tout. Grâce à O2, je respire et je bénéficie de 50% de crédit d'impôt. Vous aussi, faites confiance au numéro 1 en France des services à la personne. Rendez-vous sur O2.fr.
Et moi je vois la vie en mieux, O2.
France Info Météo, avec Gauthier, séjour, salon, chambre et dressing. Le mobilier pour toute la maison à retrouver dans nos magasins et sur gauthier.fr.
Élodie Calac à Météo France pour les prévisions pour demain.
Attention aux pluies, cette nuit des pluies parfois orageuses gagnent les Pyrénées, des pluies marquées qui persisteront demain. On surveillera les quantités de pluie, surtout sur l'Ariège. Demain, ces pluies progresseront aussi vers le Jura et le nord des Alpes. Sur le Languedoc-Roussillon, le ciel se couvrira avec de la pluie l'après-midi. Les éclaircies résisteront de la Provence vers la Côte d'Azur et la Corse. Le vent se renforcera jusqu'à 70 km à l'heure pour le Mistral et la Tramontane. Du Berry au nord-est, des nuages, ils auront le dessus, les éclaircies seront discrètes. Et puis de la Bretagne et des Charentes vers le centre, la région parisienne, la frontière belge, des éclaircies. Il fera un peu frais, 9 à 16 degrés le matin, jusqu'à 22 sur le sud-est. L'après-midi, 19 à 25 degrés et 27 à 31 en Méditerranée.
Merci beaucoup.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
France Info, il est 20h30, Emmanuel Langlois.
Après deux ans passés à renouer les relations franco-russes, Emmanuel Macron reçoit donc ce soir Vladimir Poutine au fort de Brégançon dans le Var. Le chef de l'État français qui a appelé tout à l'heure le maître du Kremlin au respect de la liberté d'expression en Russie où plus de 2000 manifestants réclamant des élections libres ont été arrêtés ces dernières semaines. Ce à quoi Vladimir Poutine a répondu qu'il ne voulait pas à Moscou d'une situation telle que celle des gilets jaunes en France. Boris Johnson lui sera reçu à son tour jeudi au fort de Brégançon par Emmanuel Macron. Le chef du gouvernement britannique assure à nouveau aujourd'hui que le Royaume-Uni est prêt à quitter l'Union européenne sans accord, tout en invitant l'Allemagne et la France à ouvrir la voie à un compromis sur le Brexit. Le français Gurvan Legal, condamné à 10 mois de prison ferme en Russie, fondateur d'une école de cours de français en ligne, il était accusé de corruption. Au mois de mars, il avait été arrêté par des policiers russes sans le bon visa pour travailler dans le pays. Il avait donc donné de l'argent aux policiers affirmant payer une amende. Les autorités y ont vu au contraire une tentative de corruption. Gurvan Legal est en détention depuis 5 mois. Il devrait être libéré à la mi-octobre d'après le système de détention russe. Ce qui ne satisfait pas pour autant son avocat, maître Alexandre Delavey.
C'est une peine qui est totalement disproportionnée, qui est excessive et qui est incompréhensible. Mais comme tout ce qui se passe depuis le début de ce dossier, on ne comprend pas la fermeté de la peine qui est prononcée. Et on estime que Gurvan Legal paye très clairement le fait d'avoir clamé son innocence depuis le début de ce dossier face à un système judiciaire qui ne reconnaît pas l'innocence et qui ne reconnaît pas la relaxe, en tout cas qui ne prononce jamais de relaxe. Les 5 mois de détention qui se sont écoulés ont été marqués par le fait que Gurvan Legal était dans un isolement total. Maintenant qu'il y a une peine qui a été prononcée, prononcer, on va à nouveau faire des demandes de permis de visite et de communication, mais on n'a aucune certitude et aucune garantie sur le fait qu'on puisse les obtenir. Et on craint que l'incarcération d'Urvan Le Gall, au mieux jusqu'en octobre, se déroule dans les mêmes conditions que celles qui ont présidé à son incarcération depuis le mois de mars, c'est-à-dire dans un isolement total.
À l'avocat maître Alexandre Delavey, Madrid hausse le ton contre l'Italie. La ministre espagnole de la Défense accuse le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, de honte pour l'humanité, pour vouloir tirer profit politiquement des 107 migrants de l'Open Arms, toujours à la recherche d'un port d'accueil. L'Espagne propose aux navires d'accoster aux Baléares, mais l'ONG refuse, mettant en avant les risques à parcourir le millier de kilomètres qui sépare les Baléares de l'île italienne de Lampedusa, près de laquelle stationne le bateau entre cette île de Lampedusa et l'archipel espagnol. Et puis l'Ariège, placé en vigilance orange, pluie, inondation, de fortes averses y sont attendues dans les heures qui viennent. La nuit prochaine et demain, l'alerte est valable jusqu'à demain mardi à 16h.
Il est 20h33, c'était Emmanuel Langlois.
20h, 21h, les informés.
Nicolas Creusel.
Deuxième partie de cette émission ce soir autour de la table et des micros de France Info. Jérémy Pelletier, le directeur des études à la Fondation Jean Jaurès, Romain Mouton, communicant et fondateur de l'agence RM Conseil, et Frédéric Durand, directeur exécutif du journal La Marseillaise. On a beaucoup parlé, messieurs, de politique internationale et de diplomatie depuis le début de l'émission, mais ce lundi marque aussi le retour aux affaires du gouvernement. Fin des vacances pour les ministres, après un été, je pense que vous serez d'accord avec moi, plutôt calme si on compare à l'été dernier, où il y avait l'affaire Benalla. Parle à l'affaire de Rugy vite expédiée, la petite polémique de la semaine dernière sur la présence du ministre de l'Agriculture à une corrida à Bayonne. C'est pas le pire été d'un exécutif, Jérémy Pelletier.
Non, vous l'avez dit, l'été était plutôt bien géré. Effectivement, si on compare évidemment à l'année dernière, ça n'a absolument rien à voir. La crise, effectivement, autour de François de Rugy a été plutôt bien gérée. Donc,
rapidement, en tout cas.
Rapidement gérée et de façon assez propre et, je crois, assez efficace. Maintenant, voilà, la question qui va se poser... dès cette rentrée, et d'ailleurs Emmanuel Macron en a un peu parlé dans ses bains de foule après Granson, c'est d'abord la résurgence évidemment de la crise des Gilets jaunes. On peut croire évidemment que l'incendie est maîtrisé, sauf qu'il reste les braises. C'est un mouvement en tout cas social qui a profondément bouleversé le pays, qui a montré aussi ses nombreuses fractures, c'est la grande fragmentation en tout cas de ce pays, et donc il va falloir regarder est-ce qu'il y a un potentiel en tout cas de résurgence de ce mouvement-là. Et évidemment ensuite il va y avoir un certain nombre de sujets dont on va parler, un certain nombre de sujets de politique publique qui vont toucher intimement les Français et qui sont tout autant de foyers pour justement rallumer la mèche.
C'est des belles métaphores. Vous pensez que effectivement certains se chargeront de souffler sur les braises des Gilets jaunes pour allumer l'incendie, Romain Mouton ?
Sur l'été du gouvernement, en tout cas, il y a eu quelques sujets, mais qui ont été aussi traités. On a eu des ministres qui ont été assez présents sur la brèche. Déjà, on a le Premier ministre qui est parti assez tardivement en vacances, qui était là la dernière semaine de juillet. Mmh. On a eu le décès d'un maire, mais tant Jacqueline Gourault que Sébastien Lecornu sont montés au créneau et ont assuré le service pendant l'été.
La représentation du gouvernement,
la représentation du gouvernement, la défense des maires, etc. On a eu quelques ministres qui sont sortis du lot et qui ont existé cet été. Je pense notamment à Gabriel Attal qui a fait des sorties médiatiques sur le thème du SNU. Donc, et finalement, pas de polémique. Donc,
même deux canicules sans polémique, c'est rare quand même. Deux épisodes de canicule.
C'était au mois de juillet. Par contre, la rentrée, ça va être un autre sujet, beaucoup plus tendu.
Frédéric Durand, la Marseillaise.
D'abord, on a oublié qu'il y avait eu pas mal de permanences un peu bousculées de députés en marche pendant l'été.
Donc, mais ça peut être les prémices d'une révolte agricole à la rentrée.
Agricole, puis je pense qu'il y avait... Donc l'été a été calme, si on veut, pour eux. Il n'a pas été non plus plat. Vous êtes prêts parce que...
J'ai pas dit plat.
Non. Non, mais là, il faut qu'on soit prêts, parce que ce que j'entends, c'est que le gouvernement va faire de la pédagogie. Alors moi, j'ai été assez halluciné par le fait... que depuis 40 ans, en fait, les gouvernements font de la pédagogie.
Ça, c'est un terme pour nous expliquer qu'ils vont essayer de nous faire avaler une pilule
non,
ou une couleuvre.
C'est qu'on part du postulat que les citoyens, que le peuple n'a pas compris. Et que s'il n'est pas d'accord, c'est parce qu'il n'a pas compris. Alors c'est assez hallucinant, venant de Macron en plus, qui était censé révolutionner les codes politiques.
Ça vient pas que d'Emmanuel Macron, voilà, c'est ça.
Non, mais je dis, c'est d'autant plus étonnant d'Emmanuel Macron, qui était censé révolutionner les codes politiques, d'utiliser des ficelles aussi vieilles. Il y a 72% aujourd'hui de Français qui n'acceptent pas la politique et l'action du gouvernement et d'Emmanuel Macron. Mais je crois que c'est parce qu'ils savent très bien pourquoi ils sont pas d'accord avec la suppression de l'ISF, ils sont pas d'accord avec la hausse de la CSG pour les retraités, ils ne sont pas d'accord avec la baisse des APL, ils ne sont pas d'accord avec un tas de choses.
Mais ça, ce sont des vieux dossiers, quelque part. C'est pas ceux qui vont être là en septembre, parce qu'il n'est pas revenu dessus.
Vous dites que il peut y avoir une résurgence à cause de tout ça, à cause du sentiment qu'il a été mené une politique plutôt en faveur des plus aisés, avec une théorie économique vieille comme le monde, qui est celle du ruissellement, celle qui supposerait qu'en donnant plus aux nantis, ça finisse par déborder par le haut, par le sommet, et que finalement ça finisse par nourrir ceux du bas. Or, en haut, ils ont fait un tel bassin de rétention que ça descend jamais. Toujours est-il que, moi je pense que, dans ce qui risque de se passer en termes de friction à la rentrée, et en termes de révolte populaire comme on a pu le connaître, ces sujets-là, ils sont loin d'être derrière nous, dans la tête des gens. Très loin.
Ça, effectivement, c'est le contexte social de cette rentrée qui nous le dira. Ils sont peut-être pas loin dans leur tête, mais il y en a de nouveaux. Il y a la réforme des retraites, il y a la réforme des lycées, il y a le monde agricole qui depuis la signature du CETA, laisse quand même montrer une vraie colère. Romain Mouton, ça va être compliqué quand même, cette séquence.
Ça va être compliqué, mais c'est les dernières réformes, grosses réformes possibles, parce que après on va rentrer dans les municipales et pas loin derrière on aura les présidentielles. Donc c'est maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais, mais pour maintenant ou jamais, il faut donc une équipe de choc. Et ça va être un vrai sujet pour Emmanuel Macron, c'est est-ce qu'il a aujourd'hui l'équipe gouvernementale capable de faire toutes ces réformes.
Il lui manque un peu des poids lourds, ça que vous suggérez.
Il y a un sujet poids lourd. Moi, ce qui me frappe, c'est, on va dire, pour être aimable, la faiblesse des ministères régaliens. Aujourd'hui, on devrait avoir des ministres régaliens. Je pense à la justice, à la défense et à l'intérieur, des ministres forts, politiques, qui sont capables de monter au créneau pour le président de la République, faire le service après-vente des réformes, des poids lourds du gouvernement, parce que ministre régalien. Aujourd'hui, ces poids lourds sont des bons techniciens, mais sont pas forcément des bons politiques. Et Emmanuel Macron, dans la période qui va arriver, avoir besoin de ministres politiques, communicants, qui savent monter au créneau. Est-ce qu'il a aujourd'hui la bonne équipe gouvernementale? Il en est bien évidemment le seul juge, mais ça sera un sujet de cette rentrée.
Et surtout qu'il faut les trouver, les poids lourds politiques éventuellement. Quand on a voulu faire un big bang au sein des partis politiques et renouveler le personnel, ça crée effectivement peut-être des postes vides, en tout cas pour les occuper par des politiciens aguerris. On continue d'en parler après le rappel de l'info. Il est déjà 20h40, c'est Thomas Bénèche.
Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ensemble au fort de Brégançon dans le Var. En préambule, les deux hommes ont tenu une conférence de presse. Le président français a souhaité l'organisation dans les prochaines semaines d'un sommet pour résoudre le conflit en cours dans l'Est ukrainien. Une guerre enclenchée en 2014, elle oppose séparatistes pro-russes et ukrainiens. Elle chute du tracteur de son père, heurte l'une de ses roues arrière et se tue. Voilà ce qui arrive hier soir près d'Anceny, en Loire-Atlantique, à une fillette de 18 mois. Ses parents, sous le choc, sont transportés au CHU de Nantes pour un suivi psychologique. L'Ariège, en vigilance orange à la pluie et aux inondations à partir de minuit, selon Météo France. L'alerte doit courir jusqu'à demain, 16h. Un drame environnemental se déroule en ce moment, selon les autorités, sur l'île espagnole de Grande Canarie. Sur place, un troisième incendie s'est déclaré en moins de 10 jours. Il a déjà parcouru 6000 hectares. Les États-Unis laissent 90 jours supplémentaires aux fournisseurs américains de Huawei, ce géant chinois des télécoms. Cela doit leur permettre de trouver d'autres marchés, laisser le temps aussi aux consommateurs de se tourner vers d'autres fabricants de mobiles. Huawei est accusé outre-Atlantique de représenter une menace pour la sécurité intérieure américaine et se trouve sur une liste noire. Le cinéaste Costa Gavras, bientôt récompensé pour l'ensemble de sa carrière. Il sera honoré dans un peu plus d'un mois maintenant, le 21 septembre, au Festival du film de Saint-Sébastien. Son nouveau film y sera d'ailleurs projeté en avant-première. Une adaptation des mémoires de l'ex-ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Nicolas Creusel.
Avec Jérémy Pelletier de la Fondation Jean Jaurès, Romain Mouton de RM Conseil et Frédéric Durand de la Marseillaise. On évoquait le gouvernement et cette rentrée qui s'annonce chargée. Est-ce que c'est Romain Mouton qui nous disait, est-ce que le gouvernement est assez étoffé politiquement, Jérémy Pelletier?
Alors je ne sais pas s'il est assez étoffé politiquement. Ce qui est certain, c'est que de toute façon, il y aura un remaniement en amont ou en aval, évidemment, des élections municipales. Ce qui est certain, et vous disiez que voilà, le fait d'avoir un big bang rend peut-être difficile de remplacer souvent des postes vacants, mais ce qui est certain, c'est
par exemple, pour Christophe Castaner, quand Gérard Collomb est parti, on a attendu 10 jours quand même. Donc c'est bien on peut imaginer qu'ils ont cherché mieux et qu'ils n'ont pas trouvé.
Mais même pour les municipales, il va falloir aussi des poids lourds pour un certain nombre de grosses villes. La République En Marche a commencé à investir un certain nombre de candidats dans un certain nombre de villes, mais il y a tout un tas de grosses villes, évidemment, beaucoup plus sensibles. Je pense notamment à Marseille, pour le moment, qui n'ont pas de candidats officiels de La République En Marche. Et c'est, évidemment, c'est la séquence, la politique importante, je crois, pour...
Que pour affronter toute la liste de réformes que l'on a évoquées tout à l'heure, il faut une équipe de choc, en fait. C'est ça, le message de Romain Mouton. Frédéric Durand.
Oui, moi, je crois que Macron a fait deux erreurs. La première erreur, c'est qu'il a totalement négligé les corps intermédiaires lors de son arrivée au pouvoir. La deuxième erreur, c'est qu'il a été dans une sorte d'arrogance et de mépris avec les territoires. Les municipales approchent. Vous savez, les territoires, ce sont aussi, parce qu'il y a eu, là aussi, des mesures économiques extrêmement fortes en défaveur des territoires. La dotation globale de l'État a diminué extrêmement. Or, c'était des boucliers un peu sociaux, des boucliers au niveau local. Donc, il a compris qu'il devait renouer un dialogue. Il a compris que de mettre des petits Macron, c'est-à-dire des préfets un peu partout sur le territoire, ça fonctionnerait pas. Parce que c'était ça l'idée de Macron à la base. Et c'est comme ça qu'il pensait pouvoir se passer des élus locaux. Lui-même va devoir affronter l'élection locale, parce qu'aujourd'hui, les seuls élus qu'il a sur le territoire, ce sont les députés, mais demain, il va falloir s'ancrer.
Pour durer, il faut s'ancrer. Qui ont été élus, en gros, les députés, simplement par l'étiquette politique, la foulée de la présidentielle.
Tout à fait.
On ne les connaissait pas, mais ils ont été élus simplement.
Voilà, c'est ça, parce que tout simplement, comme c'est souvent le cas lorsqu'il y a des élections législatives, après une dynamique forte de la présidentielle, ils sont élus, mais pas forcément des élus qui avaient l'habitude du terrain. Donc, il va falloir régler. Lorsqu'on voit, ensuite, s'agissant des poids lourds, moi, je crois moins à la question des personnalités à la question des mesures. Ou bien ces mesures qu'il veut mettre en œuvre sont populaires ou elles ne le seront pas. Et là, évidemment que vous aurez des gens mieux aguerris pour faire passer, mais ça ne dure jamais.
Qu'est-ce qui peut faire crisper le plus possible l'opinion? Ça peut être les retraites quand même.
Que les retraites est un sujet extrêmement fort.
On rappelle, l'idée, c'est un point pour une retraite système universel par point où 1 euro cotisé donne les mêmes droits quel que soit le moment où il a été versé, quel que soit le statut.
Ça, c'est un âge pivot à 64 ans, ça veut dire que beaucoup partiront à 67, 68.
C'est aussi beaucoup de gens qui disent qu'ils vont y perdre.
Bien sûr, qu'ils vont y perdre. Les régimes spéciaux, etc. Donc là, il va devoir affronter ça et il va y avoir sans doute beaucoup de contestations. Il y a la PMA, mais moi je pense presque, c'est cynique, mais je pense qu'il peut faire un calcul cynique d'ailleurs, Macron. C'est de se dire, il vaut mieux que ça bouscule beaucoup sur les questions sociétales plutôt que sur les questions sociales.
Donc mettre en avant la procréation médicale assistée, parce que ça...
Presque, il s'y prépare déjà à avoir un débat sur la question sociétale qui est la PMA, qui est certes important, mais qui concerne une minorité.
Ça m'arrange que vous ne soyez pas d'accord, comme ça on va faire un débat.
Je ne dis pas que c'est ce qu'il va faire. Je pense que son intérêt, c'est plutôt de cliver sur des questions sociétales.
Où les gens sont irréconciliables, en gros.
Et parce qu'en plus, le clivage se fait avec une France très traditionaliste.
Les modernes et les conservateurs.
Et donc là, ils retrouvent. Mais en plus, ça porte pas préjudice au fond économiquement. Tandis que sur la question des retraites, sur la question de la réforme des enseignements, sur la question, aujourd'hui, il y a encore 220 centres d'urgence qui sont en grève. C'est inédit. Et donc sur toutes ces questions sociales fortes là, il n'a pas de réponse à apporter parce qu'il est sur un modèle économique libéral, voire ultra-libéral.
En tout cas, il a ses réponses, mais qui ne sont pas forcément en adéquation avec l'opinion. Voilà. Je vois que Jérémy Pelletier, vous disiez,
Mais c'était intéressant sur la PMA, sauf que je pense qu'aujourd'hui, la PMA n'est absolument pas un sujet clivant. Aujourd'hui, vous avez plus de 60% des Français dans toutes les enquêtes d'opinion qui sont favorables à la PMA pour les femmes seules ou pour les couples de femmes. Ça a pris 10 points, environ 10 points depuis un an. Il y a des effets de cliquer.
C'est
toujours
moins clivant que le mariage pour tous. On ne va pas revivre la France pour tous.
C'est toujours la même chose sur toutes ces questions-là et toutes ces politiques publiques et toutes ces nouvelles mesures. Il y a un effet de cliquer qui est que, effectivement, il y a eu d'abord le PACS, ensuite il y a eu le mariage pour tous. Ça prépare les esprits, ça prépare les cultures pour accepter d'autant plus facilement la PMA. Donc, je pense absolument pas que le débat sur la PMA va mettre, en tout cas, le pays feu à sang. Je pense qu'aujourd'hui, une grande majorité de Français qui est très favorable à ça.
Mais par contre, tout le reste.
Contrairement, par contre, à des sujets comme la réforme des retraites, où effectivement, là, ça touche intimement la population.
Et ça touche le portefeuille, quoi.
Ils ont l'impression que cette réforme est difficilement lisible et qu'ils ont du mal à se projeter au moment de la retraite par rapport à ce qu'ils vont toucher en termes de pension. Là, c'est beaucoup plus inflammable.
Juste en 10 secondes, Frédéric Durand,
qui est là, simplement, n'est pas du tout en contradiction avec ce que j'ai dit. Bien au contraire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des effets de cliquet qu'à un moment donné, c'est plus ou moins accepté. Mais l'intérêt de Macron, c'est de voir une minorité, fut-elle une minorité, agissante, capable de masquer les autres débats. Et donc ça, le gouvernement est capable de le mettre en scène. Je ne dis pas pour autant que ça va être une majorité de Français. C'est vrai qu'une majorité accepte aujourd'hui.
L'effet de cliquet, c'est...
Mais l'effet de cliquet, ça veut dire qu'on ne peut plus revenir en arrière. D'accord, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est dans les mentalités qu'on a basculé.
Voilà. Alors, je pense qu'on peut ni le souhaiter, ni l'envisager. D'une part, Emmanuel Macron a fait une interview qui avait marqué pendant la campagne présidentielle dans l'Obs, où il avait dit notamment qu'on avait, je crois que le terme était humilié, certaines personnes lors du débat sur le mariage pour tous, ou en tout cas on avait perturbé certaines personnes.
Oui, c'est le mot humiliation.
Qui avait fait débat d'ailleurs,
fait grand débat.
À juste titre, parce que l'humiliation était certainement dans l'autre camp. Mais suite à ce débat, on a du mal à imaginer qu'Emmanuel Macron se serve d'un sujet de société aussi sensible qui concerne l'intimité des familles pour cliver et pour faire de ce sujet une polémique. En dehors du fait que les Français sont largement favorables, comme l'a dit Jérémy, qu'ils sont même favorables à la GPA et donc que le gouvernement est même en retard sur les sujets de société et que le gouvernement est timide et pourrait aller beaucoup plus loin, notamment sur la recherche sur les cellules souches et sur la GPA. Donc, je pense que les sujets sont de société, en tout cas les sujets sociaux, notamment les retraites et tous les sujets les réformes à venir, vont saturer l'espace médiatique et que le cœur du débat restera sur ces sujets qui touchent une large majorité de Français.
Retraite, les profs, le bac a été perturbé, ils nous annoncent une grosse rentrée scolaire.
La PMA qui concerne, qui est certes un sujet fondamental, mais qui concerne beaucoup moins de Français que la retraite qui nous concerne tous.
Et finalement, même si les syndicats aujourd'hui ont un poids limité dans notre pays, ont du mal des fois à mobiliser, on a vu avec les Gilets jaunes que la France pouvait se mobiliser sans syndicats. On peut avoir un automne très chaud alors.
C'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile qu'avant en fait de prévoir, de prédire ce qui va se passer. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des mouvements, et les Gilets jaunes en font partie, qui sont des mouvements spontanés et durables. Pas seulement spontanés, durables aussi.
Très vite, Jérémy Pelletier.
Mais ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, voilà, si on énumère potentiellement réforme des retraites, vous avez crise des urgences, vous avez l'entrée en vigueur de la réforme de l'assurance chômage, on pourrait imaginer une espèce de convergence des luttes, justement organisée par les syndicats. La vérité, c'est que la société est tellement émiettée qu'en fait, vous n'aurez pas cette convergence des luttes-là, comme pourrait le souhaiter un certain nombre de responsables politiques, de partis politiques et de syndicats. Mais ce qui peut rendre d'ailleurs la tâche davantage difficile. Difficile en plus pour le gouvernement, parce qu'à ce moment-là, le pays est de plus en plus ingouvernable quand vous avez des foyers épars qui commencent à s'allumer de toutes les façons.
Quand les digues sautent de tous les côtés, si on prend une autre image avec un peu plus d'eau. On vous retrouve pour la fin de cette émission. On va rouler moins vite, à 30 km/h, juste après le rappel de l'info. Il est 20h50, Thomas Benesch.
Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, suscite la colère. La ministre espagnole de la Défense juge ce soir que son comportement est une honte pour l'humanité. Elle l'accuse de ne pas vouloir laisser débarquer les 107 migrants encore présents à bord de l'Open Arms, navire humanitaire actuellement au large de l'île de Lampedusa. Cela alors que la situation à bord du bateau est électrique. La santé des travailleurs est assurée, juge la ministre du Travail. Muriel Pénicaud s'est rendue aujourd'hui à Notre-Dame de Paris alors que les travaux de consolidation de l'édifice, partiellement brûlés le 15 avril dernier, ont repris. Ils étaient interrompus depuis le 25 juillet à la suite de risques de contamination au plomb. 10 mois de prison pour Gurvan Legal, un professeur français de 40 ans originaire du Havre. Peine prononcée aujourd'hui par un tribunal russe. On accuse ce quadragénaire qui était en détention provisoire depuis 5 mois d'avoir tenté de corrompre des policiers. C'était le 21 mars dernier lors d'un contrôle d'identité. Il aurait proposé aux agents 200 €. Le français nie les faits. Le président russe dans le Var au fort de Brégançon. Il y rencontre ce soir son homologue Emmanuel Macron. Au menu de ce tête-à-tête, entre autres, l'Ukraine, la sécurité, la guerre en Syrie. Vladimir Poutine a par ailleurs indiqué que le président français était invité en mai prochain à participer au 75e anniversaire de la victoire de l'URSS sur l'Allemagne nazie. Enfin, le succès du cognac ne se dément pas, surtout aux États-Unis où l'on est friand de l'eau de vie charentaise. Ses ventes à l'étranger ont progressé pour la 5e année consécutive, plus 2,5% par rapport à 2018.
France Info.
20h, 21h. Les informés.
Nicolas Creusel.
Et c'est déjà la dernière partie de cette émission avec ce soir Jérémy Pelletier, directeur des études à la Fondation Jean Jaurès, Romain Mouton, communicant et fondateur de l'agence RM Conseil, et Frédéric Durand, directeur exécutif du journal La Marseillaise. On va terminer avec ce débat qui agite tous les citadins. La cohabitation voiture-vélo-piéton et désormais trottinette. Attention, c'est très important la trottinette, surtout quand elle est électrique. Après Grenoble, Lorient et d'autres villes plus petites, Lille est passée ce matin en zone 30 km/h maximum pour les voitures. Pour l'instant, c'est l'hypercentre, mais chaque semaine, la zone va s'agrandir pour couvrir quasiment toute la ville fin octobre. Martine Aubry s'est justifiée ce matin.
Quand on passe à 30 km/h dans la ville d'ici octobre, sauf les grands boulevards, c'est évidemment un élément majeur. Là, maintenant, on est au mur, parce que moi, je crois qu'on est au mur. Hein. On n'a plus le choix. Donc, quand on a fait ce plan de circulation, on a surtout entendu ceux qui étaient contre. On voit aujourd'hui, par l'étude qui a été faite, que sur la Grand Place, il y a eu un degré, par exemple, de moins au bout d'un an déjà de chaleur. Enfin, moi, je ne fais pas de la politique pour plaire immédiatement à tout le monde. Je fais de la politique parce que je crois en certaines valeurs et que je pense que le projet social et durable, c'est le seul projet qu'on peut porter aujourd'hui quand on est maire.
Voilà, Martine Aubry, maire de Lille, qui ne fait pas de la politique forcément pour être populaire, nous dit-elle, on n'est pas obligé de la croire, mais en tout cas, effectivement, elle a pris cette mesure. Premier argument qu'elle annonce, le climat et la pollution. Romain Mouton, 30 km/h.
Je trouve qu'elle a entièrement raison. C'est le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est de réduire la place de la voiture, c'est le réchauffement climatique et c'est tous ces sujets-là. Si Anne Hidalgo a fait la même chose à Paris, si toutes les grandes villes se mobilisent justement sur ces sujets, c'est pas pour rien.
À une zone 30 à Paris, c'est pas encore tout à fait le cas.
Il y a des endroits.
Il y a des endroits, bien sûr.
C'est
bien
évidemment.
Pas généralisé.
Et, je discutais encore avec le chauffeur de taxi venant ici, qui me disait qu'il avait testé ce matin de se déplacer à 30 km/h et qu'on peut très bien se déplacer à 30 km/h, en particulier dans les villes, en particulier dans les centres-villes, où de toute façon les différentes mobilités entre les trottinettes, les piétons, les scooters font que de toute façon on ne peut pas rouler plus vite. Donc priorité à ce sujet environnemental. Moi, je trouve que c'est une excellente initiative et de toute façon
environnemental et sécuritaire parce que
et sécuritaire bien évidemment.
Évidemment, quand vous tapez à 30 km/h, ça fait moins mal que quand vous tapez
enfin,
à 50.
Ça fait toujours très mal. Oui. Mais oui, ça fait peut-être moins.
A priori, vous tapez moins parce que justement les distances de freinage sont réduites.
C'est ça. Donc et puis c'est bien joué à quelques mois des municipales parce que c'est un signe vis-à-vis de son électorat.
Jérémy Pelletier.
Excellente transition. Effectivement, je pense que c'est une très bonne rentrée en campagne, une très bonne entrée en campagne. Elle met un peu de gravité, expliquant qu'effectivement on est dos au mur. Par ailleurs, ce sujet-là, lié évidemment à l'environnement, est un sujet qui est très porteur, notamment auprès de la jeune génération, et auprès notamment de son électorat, un électorat de gauche évidemment qui est important évidemment dans les centres urbains comme Lille. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est sans doute la marche du monde dans les grandes métropoles telles que Lille, à condition d'avoir un maillage en termes de transport en commun assez important. Parce qu'évidemment, dans une ville comme Lille, dans une ville comme Paris, on peut dire on va réduire la vitesse, on va passer de 50 à 30 parce que ça va favoriser l'utilisation des transports en commun. Oui. Dans une ville comme Marseille,
ça a un effet dissuasif.
Je pense que vous me
Marseille,
d'un point de vue de maillage en termes de transport en commun, qu'on voyait comment la ville est faite d'un point de vue du maillage de transport en commun, je pense que ce débat-là, 50-30 km/h aurait une toute autre teneur.
Bah déjà, si à Marseille, on roulait à 5... Allez, gros cliché. Si à Marseille, déjà, on roulait à 50, ça serait pas mal, non? Frédéric Durand.
Oui, non, à Marseille,
faire des amis chez les Marseillais que j'adore.
On roule normalement, je vous
rassure. Non, mais bien sûr, je plaisante.
Martine Aubry, effectivement, vous savez, Lille est une ville polluée. Elle fait partie des villes polluées en France. Je crois qu'il y avait un seuil de dépassement qui était de, en gros, on peut dépasser, c'est ce que donne l'Organisme Mondial de la Santé, 3 fois un certain seuil que Lille dépassait 60 fois par an. Donc il y avait déjà un vrai problème. Puis Martine Aubry, lorsqu'elle dit je fais pas ça pour être populaire, je la crois parce qu'elle est comme ça, Martine
Aubry. Mais parce que c'est pas en plus très populaire, honnêtement, pour l'avoir vécu à Grenoble.
Et cela dit, à Lille, il y avait déjà
c'est
une.
C'est pas facile, hein.
Il y avait eu une pétition qui avait réuni plus de 5000 signataires. signataires, etc., pour la pollution dans l'air. Donc elle les a pris au mot, elle dit allons-y, mmh. et puis faisons. Et puis c'est vrai qu'aussi il y a l'aspect politique, c'est-à-dire que les Verts et le score qu'ils ont fait, qui étaient des alliés historiques, décident de briguer la mairie, mmh. et qu'elle ne va pas se laisser dépasser par sa gauche ou par voilà, et qu'elle a aussi besoin de montrer qu'elle prend des mesures fortes en matière d'écologie. Et je pense, et je rejoins ce qui a été dit par Romain, c'est-à-dire que c'est le sens de l'histoire aujourd'hui. Mmh. Et je pense que ça va être, au-delà des questions purement électoralistes, un souci de chaque collectivité, de chaque exécutif et responsable de collectivité, parce qu'il y a une vraie sensibilisation à ces problématiques.
Donc argument écolo en premier, parce que l'argument sécuritaire, il est intéressant aussi, parce qu'il y a beaucoup moins d'accidents quand on roule à 30 km/h entre les piétons et les voitures.
Oui, c'est vrai. Les études
le montrent.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que je ne crois pas que ce soit une mesure aussi impopulaire que la limitation à 80 km/h sur les routes, où les gens avaient le sentiment. Donc, à la fois, c'est une mesure qui peut passer, parce qu'en ville, selon où on est, c'est vrai que 30 km/h, c'est suffisamment rapide. Et puis, c'est surtout, ça répond à une exigence citoyenne forte aujourd'hui.
Quelques secondes encore, Jérémy Pelletier, Romain Mouton, et on finit.
Il y avait un autre argument, d'ailleurs, qu'elle utilisait, Martine Rist, c'est aussi la pollution sonore, qui est un vrai bon sujet, d'ailleurs, pour les municipales. Juste d'un mot, on pourrait croire qu'évidemment, ce sujet-là, d'abaisser la vitesse, pourrait être un signe avant-coureur, évidemment, d'autres crises et de révoltes au sein des villes. Ce qui avait été le cas, d'ailleurs, pour les Gilets jaunes. Les signes avant-coureurs du mouvement des Gilets jaunes, c'est le passage de 90 à 80 sur les routes secondaires. Sauf que, sociologiquement, d'un point de vue culturel, on est sur des publics totalement différents. Je pense qu'ils ont totalement intégré le fait que c'était à la marge de l'histoire. Et évidemment, vous l'avez dit, la puissance et en tout cas la force de l'électorat vert lors des dernières européennes, notamment à Lille, influe évidemment sur ces décisions.
Quelques secondes, Romain, pour terminer, puis après...
Dans le même sens, de dire que ça ne fonctionne que parce que c'est des urbains. Le livre de Jérôme Fourquet est très intéressant sur le sujet, sur l'archipel français, puisque ça marche à Paris, ça marche... D'ailleurs, Paris a la polémique, mais la polémique, c'est les banlieusards les personnes qui habitent en banlieue. C'est pas que le cœur de Paris est favorable aux mesures d'Anne Hidalgo de réduire la place de la voiture. Donc, c'est un public, on va dire, ciblé et qui est déjà éduqué sur ces questions-là.
J'ai promis à Frédéric Durand
qu'on
parlerait de la une de son opération.
Vous savez que nous, à la Marseillaise, on a lancé donc une grande campagne pour venir en aide aux sauveteurs et aux migrants en Méditerranée. Mmh. On a adressé une lettre ouverte au président de la République, déjà signée par 400, et j'invite tout le monde à aller sur lamarseillaise.fr pour la signer, par 400 internautes. Et donc, nous ouvrons demain sur la question des migrants en Méditerranée.
Eh bien, c'est noté. Je vous remercie Frédéric Durand de la Marseillaise, Romain Mouton de RM Conseil et Jérémy Pelletier de la Fondation Jean Jaurès d'avoir participé aux Informés ce soir. Les Informés qui reviennent demain à 20h.